Je vais donc vous présenter dans de très grandes lignes, hein, assez superficielles, la pensée d'Ingarden, mais pour m'arrêter précisément sur le statut de l'objet intentionnel qui, en fait, est au plus près de cette question de la représentation. Alors, pour le resituer, il faut rappeler que la philosophie d'Ingarden s'inscrit entièrement en continuité et en rupture avec la phénoménologie de Husserl. Roman Ingarden, c'est un philosophe polonais et il fait partie de ce qu'on appelle le premier cercle des disciples de Husserl, le cercle de Göttingen. Et ses premiers disciples sont enthousiastes, se sont enthousiasmés pour le réalisme et la méthode d'analyse descriptive des essences qui était développée dans les recherches logiques. Hein, paru le grand texte de 1901 et qui servait de base au séminaire de Husserl. Ingarden rejoint Husserl en 1912 après avoir passé une année chez Tarnowski et il est aussitôt conquis par la pensée de Husserl. Il fera sa thèse avec lui à Fribourg en 1918, une thèse sur Bergson. Et il restera en correspondance avec Husserl, en relation amicale avec lui, jusqu'à sa mort en 1938. Donc c'est un des rares disciples qui est resté auprès de lui jusqu'en 1938. Et Husserl le considérait comme un de ses meilleurs disciples, en dépit du désaccord, en dépit du malentendu qu'il y avait entre eux deux sur le statut de la réduction transcendantale. Parce qu'Ingarden juge que cette réduction transcendantale, au fond, est la cause du tournant idéaliste de Husserl. Et ça va être au cœur de sa pensée de manière continue. Ingarden fera sa carrière philosophique en Pologne, à Cracovie, où il va rédiger le grand traité pour lequel il est connu, La controverse sur l'existence du monde, qu'il a d'abord écrit en polonais, puis traduit en allemand. On a beaucoup de problèmes avec les textes d'Ingarden. Tous les textes sont en plusieurs langues, soit qu'il les ait lui-même traduits, soit qu'il les écrit en allemand, puis les traduit en polonais, soit qu'il les traduit écrit en polonais, soit traduit lui-même en allemand, quelquefois en anglais. Voilà. Donc on a un corpus assez compliqué. L'intérêt de ce grand texte, c'est que, il espérait, par ses analyses, régler son différend avec Husserl en passant par la voie de l'analyse ontologique des idées. L'ontologie, chez Ingarden, c'est une analyse a priori du contenu des idées ou des essences. Et c'est une analyse qui se tient au seul plan du possible et non pas de l'existence. Il analyse ce que requiert tel ou tel objet pour exister, étant donné le contenu de son idée. Et ce que son existence impliquerait à chaque fois. Mais ces analyses restent toujours sur un plan hypothétique et possibiliste. Hein. C'est seulement, et c'est le propre de l'analyse ontologique, que de rester, hein, que de se tenir dans ce cadre simplement possible. C'est seulement le constat factuel de la réalité, de la réalité d'un objet, et qui relève pour Ingarden de la métaphysique, c'est seulement ce constat factuel qui permet d'assurer que, en effet, tel objet existe. Donc ces analyses ontologiques sont très subtiles, très détaillées, très complexes, et cette elle participe d'une pensée logique, d'un travail logique très élaboré. C'est à ce titre qu'Ingarden intéresse beaucoup la philosophie analytique, évidemment. Et ce grand texte qui est La controverse est désormais, depuis 2016, 13 et 16, traduit en anglais. Et on peut songer, non pas qu'Ingarden soit œcuménique, mais qu'il va faire son retour en Europe via les États-Unis. Il sert de caution. Bref. Voilà. Alors, ce grand texte est tout à fait central dans l'œuvre d'Ingarden, et pourtant, c'est d'abord par son esthétique qu'il s'est fait connaître, et très tôt, avec le texte de 1931 qui s'intitule L'œuvre d'art littéraire. Ce texte sera suivi par de nombreux autres textes portant sur les différents domaines artistiques. Et Ingarden a écrit sur la peinture, sur la musique, sur l'architecture et même sur le film hein, dès les années 30, ce qui était tout à fait audacieux. Des textes également sur les valeurs esthétiques, les valeurs artistiques et l'expérience esthétique. C'est une esthétique qui a eu une forte influence sur les théories de la réception et des actes de lecture de Heiser et Yost, l'école de Constance, également sur Dufresne, et désormais ce sont les analyticiens qui s'emparent de l'œuvre. La question qui se pose immédiatement face à ce corpus, c'est de savoir comment s'articulent dans la pensée d'Ingarden les multiples travaux et qui sont continus de 1918 jusqu'à la fin, les multiples travaux d'ontologie, et d'autre part, les multiples travaux depuis 1929 jusqu'à la fin d'esthétique. Puisqu'il semble n'y avoir pas de lien hein, immédiat. D'un côté, il y a le leitmotiv tout le temps reconduit de cette opposition farouche à l'idéalisme transcendantal qu'Ingarden ne cesse de combattre. Et puis de l'autre, on a ces travaux en esthétique qui, par rapport auxquels l'enjeu de l'idéalisme et du réalisme ne se pose plus. Alors comment ça s'articule? Est-ce qu'il y aurait au fond deux Ingarden? Il me semble qu'il n'y a pas deux Ingarden, mais c'est bien le même qui suit toujours la même route. Et cette route, elle passe par ce qu'il appelle l'objet intentionnel. C'est cet objet intentionnel, c'est cette notion qui est au cœur de sa pensée et qui fonde l'unité de sa pensée. Parce que c'est au moyen de cette notion qu'il va mener campagne contre l'idéalisme transcendantal de Husserl. Justement en se livrant à l'analyse ontologique d'un objet purement intentionnel, et cet objet purement intentionnel, Ingarden le trouve dans l'œuvre d'art littéraire. Alors comment ça s'articule? Pour resituer, parce que sinon on ne comprend pas grand-chose à la démarche d'Ingarden. Pour resituer son opposition à Husserl, il faut avoir en tête que tous les disciples de Göttingen ont très mal vécu ce qu'ils appellent le virage des idéen 1. Donc la publication des idéen 1 en 1912 ouvre hein, une discorde, des polémiques, des discussions farouches sur le statut de la réalité. On se demande, dans cette nouvelle approche, ce qui paraît être une nouvelle approche, on se demande ce que devient la réalité et quel est son statut par rapport à la conscience. Et dans ces discussions très vives, Ingarden, comme beaucoup d'autres, estime que, avec les idéens, désormais, pour Husserl, une chose n'est rien de plus que le corrélat d'un certain nombre d'actes de conscience et que donc elle n'est rien d'autre qu'un sens noématique, et qu'au-delà de cela, elle n'est rien. Le sens noématique ou le noème, c'est ce que Ingarden, de son côté, plus tard, va appeler l'objet intentionnel. Autrement dit, une chose, n'importe quelle chose, mais en tant qu'elle est visée par un acte de conscience, au travers d'un sens ou d'une qualification. Si donc une chose, comme il le pense chez Husserl, n'est que cela, n'est qu'un sens intentionnel, alors il faut convenir qu'elle dépend dans son être de la conscience qui la vise. Que donc elle n'est rien d'autonome, rien de réel. Et sur ce point, Ingarden s'appuie sur le paragraphe 50, tout le temps convoqué, des idéens 1, où Searle affirme, en effet, textuellement, la relativité du monde vis-à-vis de la conscience, en disant que la réalité n'est pas en soi quelque chose d'absolu, mais elle est quelque chose qui est seulement de l'intentionnel, seulement du conscient, du représenté, de l'apparaissant. Alors, contre cette perspective, Ingarden déclare de son côté, et très tôt, il prend position très tôt, et il s'en ouvre à Husserl dès 1918 dans une grande lettre, fait partie de ces lettres que j'ai pu traduire également. Il déclare sans équivoque qu'il ne peut pas se résoudre à approuver un tel idéalisme. Il ne peut pas renoncer à l'hétérogénéité de la conscience et de la réalité. Pour lui, le réel ne peut pas être conçu comme un corrélat de la conscience. Il ne peut que exister en soi-même et par soi-même. C'est là ce qui fonde le réalisme supposé d'Ingarden. Alors il considère qu'en effet, une chose peut devenir un objet intentionnel, c'est-à-dire qu'elle peut être visée par un acte intentionnel, mais pour autant, cela n'épuise pas son essence. C'est-à-dire qu'elle peut exister sans être perçue. Elle peut exister en étant perçue, mais elle peut aussi bien exister sans être perçue ni visée de quelque manière. Donc c'est sur cette base conflictuelle, cette opposition terme à terme, que commence la longue entreprise de critiques et d'objections adressées à cet idéalisme transcendantal supposé du côté de Husserl. Au nom de réalisme ontologique, qui offre par ailleurs aussi des aspects parfois ambigus. Alors quant à l'accusation en fait à Husserl, je laisse de côté ce point. Il y a d'autres lectures qui interrogent la réalité de ce tournant. Il me semble que c'était l'objet d'un travail ancien. Il me semble qu'il y a un véritable malentendu entre les deux et que d'une certaine manière, Ingarden n'entend pas, ne comprend pas exactement la position de Husserl. Mais c'est sur la base de ce malentendu qu'il établit et qu'il fonde toute sa philosophie. Et il pose l'alternative très clairement en 1918, hein, puisque une chose réelle, c'est ce qui existe en soi-même et par soi-même sans être constitué. Un objet intentionnel n'existe que comme un produit dépendant de la conscience. On va le voir après. Donc cet objet, l'objet intentionnel, c'est l'objet qui est créé, hein, par un acte ou une série d'actes. Ce qui fait qu'à partir de cette opposition, chose réelle non constituée, objet intentionnel dépendant des actes de conscience, à partir de cette opposition, eh bien, le programme philosophique d'Ingarden s'impose de lui-même. Il va comparer, hein, le statut ontologique, les statuts ontologiques respectifs de l'objet intentionnel et de l'objet réel. Comparer les deux statuts, comparer les structures de ces deux types d'objets, comparer leur mode d'être, pour en tirer toutes les conséquences quant à cette querelle idéalisme-réalisme. Et pour comparer et faire la preuve que la position husserlienne est bien idéaliste, c'est-à-dire qu'elle réduit la réalité au statut d'un corrélat noématique, eh bien, il faut montrer que la réalité est désormais ramenée au statut d'un objet purement intentionnel. Et donc comparée avec un objet purement intentionnel. Un objet dont le caractère de pure intentionnalité est hors de doute. Et ce qu'il trouve comme objet purement intentionnel, ce qui lui paraît le plus décisif, c'est l'œuvre littéraire. L'œuvre littéraire lui paraît être l'exemple le plus emblématique, hein, ce qui va pouvoir servir justement de fil conducteur pour mener l'analyse ontologique. Et à partir de là, montrer que si une chose réelle offre exactement le même statut qu'une œuvre littéraire, eh bien alors il faut considérer que ou bien que l'idéalisme est vrai, ou bien qu'il est faux, en tout cas on va pouvoir prendre position. Donc, ce qui l'intéresse, lui, c'est de faire la preuve de l'irréalité de l'objet intentionnel à travers l'objet artistique pour attester de l'irréalité du noème husserlien. Voyez le mouvement en deux temps. Donc l'analyse des œuvres d'art sert vraiment de point d'entrée dans la controverse idéalisme-réalisme. De sorte qu'il n'y a pas, comme je disais tout à l'heure, deux Ingarden, il y a bien toujours un même projet. Hein. Interroger la légitimité de l'idéalisme à partir de l'œuvre d'art, à partir donc de la constitution des objets, hein, quels qu'ils soient. Alors ce que je voudrais vous montrer ici, c'est que ces objets intentionnels qui sont au cœur hein, du travail ingardénien, ces objets intentionnels nous reconduisent directement du côté des différentes questions que pose la notion de représentation et permettent de l'aborder sous des enjeux ontologiques, épistémologiques ou esthétiques. Il fallait ce détour hein, pour que vous puissiez resituer le statut de cet objet, sans quoi il tombe un peu du ciel, mais vous voyez que de toute façon, vous allez voir que de toute façon, il tombe un peu du ciel. Mais enfin, il faut comprendre pourquoi on y vient. Une dimension, je disais, aussi bien ontologique, épistémologique, esthétique, éthique, on ne le verra pas ici aujourd'hui, mais c'est aussi une manière d'insister sur l'ampleur de la pensée philosophique d'Ingarden. C'est peut-être le dernier grand système métaphysique hein, du XXe siècle. Alors, on va voir quel est le sort, quel est le statut de cet objet intentionnel dont on verra qu'il est véritablement un objet de représentation. Donc, premier point, l'objet intentionnel et l'inexistence intentionnelle. L'objet intentionnel, avec cette expression, Ingarden désigne tous les types d'objets créés, constitués par des actes intentionnels. C'est-à-dire des actes, alors des actes intentionnels, c'est-à-dire des actes correspondant à l'ensemble des activités de la vie intellectuelle hein, et psychique d'un sujet. Pour mémoire, tous les actes de la perception, donc des actes intentionnels qui consistent à appréhender le donné empirique au travers d'un sens, d'un angle, d'un point de vue, de sorte que percevoir, ça n'est jamais rencontrer simplement des sense data, hein. Percevoir, c'est rencontrer des choses signifiantes, et pour qu'elles soient signifiantes, pour que je puisse dire que je perçois une table, il faut encore que cet objet qui me fait face soit visé au travers du sens de la table. Donc, dès le niveau de la perception, on a des actes intentionnels et du coup la constitution d'objets intentionnels. On va retrouver ça dans l'imagination, puisque les données empiriques sont appréhendées au moyen d'un sens, de la même façon. Les éléments intuitifs de l'imagination sont eux-mêmes toujours pris dans un sens et dans une perspective. Même chose pour les images souvenirs. Enfin, tous les actes intentionnels qui relèvent de ce que Husserl appelait les actes cinétiques sont autant de manières d'articuler des propriétés des qualités dans un jugement, ce faisant. Cela constitue aussi un certain type d'objet, hein, que Husserl l'appelle un objet catégorial. Donc tous ces différents actes, encore une fois, que ce soit parler, penser, percevoir, juger, imaginer, rappelez-vous Descartes, hein, tous ces différents actes intentionnels produisent des objets. Il y a chez Husserl et par suite ici chez Ingarden une extension du concept d'objet qui désigne désormais un quelque chose visé. Hein. Peu importe. C'est-à-dire que tout objet de pensée, tout objet de visée, tout objet de représentation, image ou souvenir, tout cela prend le titre d'objet. Et d'une certaine manière, tout cela n'existe que par et à travers un acte de conscience. Ces actes constituent donc, nous disions, des objets intentionnels. Ces objets intentionnels sont à la fois immanents et transcendant. Immanent et transcendant à la conscience. Ils sont toujours pris dans le flux du vécu de conscience et en même temps toujours transcendant à ces vécus. C'est ce qu'on appelle l'inexistence intentionnelle. L'inexistence intentionnelle. Donc il y a toujours transcendance de l'objet par rapport à l'immanence de la conscience. Transcendance de l'objet, c'est-à-dire que l'objet est toujours le pôle, hein, le point de mire qui se dégage, hein, qui se détache, hein, du vécu et qui fait l'objet, hein, qui est le pôle objectif de la visée. Avant de revenir sur le statut de cette inexistence intentionnelle, insistons, même si on y reviendra, sur le fait que ces objets intentionnels sont toujours projetés par les actes, hein, c'est ce qu'on disait à l'instant, et ils sont dérivés. Un objet intentionnel, dit Ingarden, c'est un objet que crée, en un sens dérivé, un acte de conscience. Du coup, cet objet dérivé est dépendant. Il n'offre pas l'autonomie des choses réelles puisqu'il a été créé, hein, par ces actes de conscience. Il n'offre pas l'autonomie des choses matérielles. Par exemple, Faust, hein, en tant que personnage littéraire, Faust est créé, du moins, par la multiplicité des phrases que Goethe a formées. Et en ce sens, il n'existe, Faust, qu'à travers le texte, qu'à travers ses actes de conscience qui permettent, qu'à travers ses phrases, qui permettent par suite d'en former une représentation plus ou moins vive. Ce qui fait que Faust, c'est un objet que l'on peut viser, que chacun à tour de rôle peut viser, s'approprier, mais qui n'existe qu'en tant que totalité sémantique structurelle. Il est organisé, mis en forme, mais son unité repose entièrement sur les actes créateurs du poète, qui d'ailleurs, dit Ingarden, peut à tout moment décider de supprimer, hein, son personnage. Hein. Donc il est entièrement à la merci, comme il dit, des actes qui l'ont créé. Alors, qu'en est-il de sa position à ce Faust ou à d'autres objets de conscience? Qu'en est-il de sa position justement dans ou en dehors de la conscience? Donc, revenons sur l'inexistence intentionnelle. Au sens fort, l'objet intentionnel, l'objet véritable de l'acte, reste transcendant à la visée. Et il reste transcendant au contenu réellement immanent. Du vécu. Comme le rappelle Husserl, me semble que c'est à partir de là que les choses sont vraiment les plus claires. Comme le dit Husserl, je vois une boîte, hein, je ne vois pas mes sensations. Je vois une boîte, je ne vois pas mes sensations. Pourtant, la perception de la boîte se fait à partir du contenu vécu, à partir des sensations, de ces data, hein, qui constituent le contenu primaire du vécu, elle a houlé. La perception ne se fait qu'à partir de ce contenu primaire, à partir de ces datas, mais en tant qu'ils sont animés par les appréhensions intentionnelles, hein, donatrices de sens, qui les organisent, hein, et les articulent en tant que esquisse pour l'apparition d'un certain objet. Et cet objet va se détacher de ses datas et apparaître pour lui-même et s'imposer pour lui-même. Ce qui fait que depuis l'analyse des recherches logiques, et celle-ci fait partie de ces analyses qui vont être continuellement reprises et poursuivies par Ingarden, l'objet... Il faut l'objet intentionnel est bien distingué du contenu du vécu. Et donc, on a toujours cette différence, on fait toujours cette différence entre le contenu réellement immanent que Husserl en allemand marque par l'adjectif réel, c'est-à-dire ce qui est réellement immanent au vécu. Cet objet, donc on a le contenu réellement immanent, les data, plus les noèses, c'est-à-dire les actes d'appréhension, qui sont aussi d'appréhension intentionnelle, qui sont aussi réellement prises dans ce vécu. Et puis, on a le noème, l'objet visé, qui se détache, hein, et qui, lui, est transcendant au vécu. Donc, il offre ce qui fait que l'objet n'est jamais un contenu au sens fort, hein, jamais un contenu de l'acte. Il est toujours transcendant. Il n'est pas une partie réelle du vécu, il n'est pas réellement inclus dans le vécu, mais il forme ce corréla noématique. Donc, Wingerden reprend cette perspective. Et à cet égard, considère que l'objet n'est pas, l'objet intentionnel n'est jamais, alors au sens strict, l'objet de la représentation, si on entend par là, à la manière d'un génitif, hein, que la dire que l'objet est la représentation, ça voudrait dire que l'objet est pris dans la représentation, réellement inclus en elle. Or, ce n'est pas le cas. Donc, on ne peut pas parler d'un objet de la représentation, dans la mesure où pour Wingerden, la représentation ou le vécu de représentation, c'est du psychique immanent, autrement dit un objet mental. L'objet n'est pas de cet ordre, il est visé, hein, il est toujours le pôle hein, noématique qui est visé. Donc la distinction de l'immanence et de la transcendance intentionnelle est tout à fait essentielle pour bien voir que l'objet, ce n'est pas, comme le dira Sartre plus tard, une petite icône qui se loge dans la conscience. Hein. L'objet, il n'est pas dans la conscience comme dans une boîte. Il est toujours le pôle visé, hein, mais depuis, entre guillemets, l'intérieur. Donc cette distinction entre l'immanence et la transcendance intentionnelle est tout à fait importante puisqu'elle permet, elle a cette portée phénoménologique majeure de permettre de combattre ce que Sartre a appelé l'illusion d'immanence. Hein. Vous vous en souvenez, dans l'imaginaire, hein, Sartre va livrer bataille contre les théories qui font de l'image une sorte de simulacre, hein, d'icône dans la conscience. Hein. Nous pensions le plus souvent, dit-il, sans nous en rendre compte, que l'image était dans la conscience et que l'objet de l'image était dans l'image. Et on se figure la conscience comme un lieu peuplé de petits simulacres. Bien. En réalité, pour Sartre comme pour Wingerden, et là tous les deux suivent la leçon des recherches logiques, de la sixième recherche logique, pour Sartre comme pour Wingerden, l'objet n'est jamais quelque chose qui est réellement contenu dans le vécu, hein, même s'il est bien l'objet de ma représentation. L'objet intentionnel visé est toujours transcendant au visé. Ce qui fait que on peut reprendre ici la position de Sartre, elle vaut ici pour Wingerden, et on peut reprendre la formule qui distingue très bien l'acte et l'objet. Hein. L'acte de la conscience imageante, c'est un acte qui vise, hein, un objet. Pierre, mon ami Pierre pour Sartre, mon ami qui habite dans une ville éloignée pour Wingerden, bon, on a la même chose. La conscience imageante, c'est un acte qui vise un objet dans sa corporéité, hein, sur un mode concret, à travers donc un contenu physique, psychique, hein, qui ne se donne pas en propre, mais à titre de représentant analogique de l'objet visé, et par exemple les esquisses aussi. Réciproquement, l'objet intentionnel désigne tout objet en tant qu'il est visé par un acte de conscience, et que l'on peut atteindre par une certaine intuition plus ou moins vive. Ou au contraire cinétique. Donc on n'a pas affaire, en parlant d'objet intentionnel, on n'a pas du tout affaire à un objet psychique. Il faut vraiment insister là-dessus. pas un objet psychique, ce n'est pas un objet mental, ce n'est pas un objet qui est pris dans l'immanence de la conscience. C'est un objet qui est transcendant au flux de conscience. Alors la question se pose de savoir quel est son mode d'être. Quel est son mode d'être? Voilà l'enjeu ontologique. Comment situer l'être, le mode d'être, le statut de cet objet? Qu'est-ce qu'il est véritablement? Ingarden nous met sur la voie, toujours dès 1918, hein, il a en tête un programme, c'est pas à ce moment-là un programme, mais il a, dès 1918, il est tout jeune, il commence sa carrière, il a des convictions et des positions qui en fait vont être tenues, poursuivies jusqu'en 1969. C'est quelque chose d'assez remarquable, hein. On trouve pratiquement tout déjà dans cette lettre de 18. Et alors il dit à Husserl, s'agissant des noèmes ou des objets intentionnels, mais on va y revenir, j'ai beaucoup de peine, dit-il, à les attribuer à la conscience en un sens authentique, c'est-à-dire, entendez, réel, réellement immanent. D'un autre côté, ce ne sont pas des choses du monde extérieur, c'est-à-dire réel au sens de réal, des objets mondains. Mais alors, doivent-ils nécessairement être soit l'un, soit l'autre? L'alternative, elle est là pour Ingarden. Qu'est-ce qu'on fait de ces objets? Hein, ils ne sont pas dans la conscience comme dans une boîte, ils ne sont pas non plus des objets du monde comme des arbres. Donc, quelle est leur nature? Quel est leur statut? Et c'est pour cela qu'il y a besoin de se livrer à une analyse rigoureuse de leur mode d'être, à une analyse ontologique rigoureuse de leur mode d'être. Le résultat de cette analyse sera que, en prenant appui sur l'objet littéraire, l'objet de fiction, comme Faust, le résultat de ces analyses consistera à dire que un objet comme Faust, eh bien, c'est un objet hétéronome, dépendant, dérivé, qui au fond se situe hein, entre le réel, la conscience et l'idéal. Et qui donc constitue ce qui est pour Ingarden un quatrième mode d'être. Hein. Il n'est pas réel, on l'a dit, au sens réel des arbres, bien. Il n'est pas psychique, hein, au sens de ce qui est réellement immanent. Il n'est pas de l'ordre de l'idéal, de l'ordre des essences. Ingarden pratique la réduction eidétique, qui permet de faire cette analyse des essences. Et là, il continuera toujours le programme des recherches logiques hein, en totalité. Donc, n'étant ni réel ni réal, eh bien, il est ni idéal, il est à lui-même un mode d'être, hein, ce qu'il appelle donc l'être intentionnel et qui se caractérise par l'hétéronomie. Hein, l'hétéronomie, la dépendance ontologique. Ce qui fait que c'est un objet qui, en quelque sorte, flotte hein, entre conscience, idéalité, réalité. Hein. Il est une sorte d'intermédiaire ou d'objet flottant hein, entre monde réel et monde idéal. Donc voilà ce qu'il en est chez Ingarden. Est-ce que pour autant Ingarden parle vraiment de la même chose que Husserl? C'est là que la querelle hein, prend tout son sens. La première remarque que l'on peut faire, qui est purement terminologique, c'est que Husserl n'emploie jamais l'expression d'objet intentionnel, quasi pas. Husserl parle d'objet irréel, parle d'objet idéel, et en réalité, il parle essentiellement de noème, hein, ou de corréla noématique. Mais il ne parle pas beaucoup d'objet intentionnel. Surtout, chez Husserl, à aucun moment, ces objets irréels ou idéels ou intentionnels ne constituent pour lui une classe spéciale d'objets, et encore moins un mode d'être. Cette expression, objet irréel ou corrélano hématique, cette expression s'applique de manière indifférente à tous les objets de conscience. À tous les objets de conscience, qu'ils soient possibles ou réels ou même idéaux. Précisément en tant qu'ils sont juste des corrélats des actes. Juste des corrélats des actes. Et c'est ça la thèse de l'intentionnalité, hein, selon laquelle il n'y a pas de conscience sans objet, mais réciproquement, c'est là le souci pour Ingarden, réciproquement, pas d'objet sans un acte de conscience tourné vers lui. Sauf que cette relation intentionnelle, on ne l'a pas rappelé jusqu'à présent, cette relation intentionnelle, cette corrélation intentionnelle, elle est découverte dans le cadre de la réduction phénoménologique. C'est-à-dire dans les parenthèses, hein, la mise entre parenthèses de l'existence mondaine pour décrire les actes et les vécus d'actes qui d'habitude en effet n'apparaissent pas à la conscience, hein, et vont pouvoir se révéler dans le cadre de la réduction, dans l'ordre de la représentation objective. Et non seulement les actes et les vécus d'actes, mais encore les objets sur lesquels ils se portent. Et cela vaut pour tous les objets sans exception, qu'ils soient réels, catégoriaux, fictifs ou idéaux. Comme le dit Husserl, pour la conscience, le donné est essentiellement le même. Le donné est le même pour la conscience. Que l'objet existe ou non, qu'il soit réel, imaginé ou absurde, c'est pareil. C'est un objet qui se présente à la conscience. Ce qui fait que, dans le cadre de la réduction, tous les objets sont des irréels. Viser un arbre dans un jugement, ou viser Emma Bovary, ou viser un triangle, c'est toujours viser un objet. Hein, je parlais de l'extension de cette catégorie de l'objet. Donc l'objet intentionnel, chez Husserl, ça n'est pas un objet spécifique, ça n'est pas une catégorie d'objet, et ça n'est pas non plus un mode d'être. C'est simplement le fait que un objet se donne en tant que corrélat des actes dans le cadre de la réduction. Il n'y a là, chez Husserl, aucun jugement ontologique, aucun mode d'être, simplement la reconnaissance de la corrélation intentionnelle. Le problème est que cette réduction, du coup, qui présente tous les objets en tant que donnés sur le même plan, cette situation de réduction donne le sentiment d'une égalisation de tous les objets, d'une homogénéisation de tous les objets. Tous sont sur le même plan, on vient de le dire, tous sont irréels. Et c'est cela qui scandalise Ingarden. Et c'est cela qui lui fait peur, parce qu'il a peur par là de perdre la réalité, hein, du monde. Mais Husserl ne dit rien de tel. Il dit juste que la réduction a pour vertu de permettre l'accès à un nouveau mode de donation. Un nouveau mode de donation des choses qui révèle les corrélations intentionnelles. Donc la réduction ne produit pas de nouveaux objets. Elle ne supprime pas non plus l'existence des autres objets. Simplement, elle les éclaire d'une nouvelle manière. Et le point délicat, il est là. Mais Ingarden voit là une annulation, une suppression de l'existence indépendante des objets. C'est ça qui est au fondement de toute sa polémique. Il n'y a pas de réduction, et on s'en souvient aussi, juste pour mémoire, Husserl rappelle de toute façon que, il y a sur le plan de l'attitude naturelle une vraie différence entre l'arbre réel, celui qui est dans le jardin et qui peut brûler, entre une vraie différence entre l'arbre réel, hein, qui est dans le jardin, et puis l'arbre en tant que pensée, en tant que visée, en tant que représentée. Et donc il rappelle bien que, il appelle l'arbre perçu en tant que tel, dans le cadre de la réduction, lui en revanche, ce corrélat ne peut pas brûler. Il ne peut pas brûler. L'arbre perçu en tant que tel, ou l'arbre jugé en tant que tel, ou l'arbre peint en tant que tel, etc. Cet arbre en tant que corrélat, il ne peut pas brûler puisqu'il n'a pas d'élément chimique. Il est le pôle, hein, des actes intentionnels. Donc il n'y a pas de suppression de l'existence, il y a bien simplement à chaque fois Husserl se tient dans le cadre de la réduction et ne veut plus revenir sur le plan de l'existence mondaine. Et c'est là la difficulté avec Ingarden, c'est que chaque fois qu'il pratique la réduction, lui, il maintient l'existence mondaine à l'arrière des parenthèses. On peut dire ça comme ça. Il maintient le monde à l'extérieur des parenthèses, de sorte que il met en face à face, en quelque sorte, l'objet visé transcendant dans l'immanent, et en même temps l'objet réel, supposément, qui serait extérieur, lui encore. Hein, de sorte que l'objet intentionnel chez lui prend un tout autre sens que chez Husserl. C'est pour ça qu'il en fera aussi un médiateur, hein, ce qui n'est pas du tout le sens chez Husserl. Il n'y a pas deux objets chez Husserl, mais chez Ingarden, oui. Voilà l'enjeu. L'enjeu épistémologique, il est là. Ce qui fait qu'on le voit apparaître, en fait, chez Ingarden, l'objet intentionnel, c'est un objet sans réduction. C'est un objet sans réduction. Au sens strict, il n'est pas découvert par la réduction phénoménologique, même s'il peut l'être aussi. Hein. Mais il apparaît dans la simple attitude réflexive. C'est suffisant. La réflexion qui fait retour sur les actes de conscience, qui fait retour sur les objets de conscience, eh bien, découvre en elle, même si c'est sur un mode de transcendance dans l'immanence, elle découvre en elle cette réflexion des objets, et qui ne sont pas en effet réels comme les choses, hein, donc des objets irréels. Mais, comme le remarque fort bien Dufresne, cette irréalité de l'objet représenté, cette irréalité de l'objet de conscience, ce n'est pas l'irréalité de l'intentionnel. Donc c'est un objet, en fait, qui n'est pas réduit. C'est un objet qui n'est pas réduit. Et du coup, on comprend aussi pourquoi Ingarden ne peut le plus souvent parler indifféremment d'objets intentionnels, mais il dit aussi bien un objet figuré, un objet représenté, un objet projeté. Ce qui montre bien qu'il se situe toujours sur le plan naturel de la représentation consciente, et en particulier dans l'ordre du discours, hein, singulièrement dans l'œuvre d'art littéraire. L'ordre du discours qui propose justement de multiples représentations. Et donc, au passage, on peut se poser la question de savoir si l'ordre de la représentation, l'ordre du discours, hein, peut légitimement être érigé au niveau d'un mode d'être. Hein. Il n'est pas certain que ça aille de soi. De la même façon, il est très significatif qu'Ingarden passe du vocabulaire de la constitution à celui de la construction. Alors que ces deux notions sont, chez Husserl, complètement séparées, à nouveau, par toute la distance qu'il y a entre attitude réduite et attitude naturelle. La construction, construire une représentation, construire une imagination, construire un projet, anticiper, etc. La construction relève d'une activité volontaire. Elle reste dans le cadre d'une conscience vigile, dans le cadre d'une conscience positionnelle. Où va intervenir, hein, la capacité créative, la capacité imaginative à des degrés plus ou moins forts? Mais on reste ici sur le plan résolument conscient, hein, et le plan même de la volonté, au point qu'à la fin de l'œuvre d'art littéraire, Ingarden n'hésite pas, dans les dernières lignes, à dire que l'œuvre d'art est un monde à part, un monde merveilleux, bien, et il ajoute qu'il ne naît qu'à la faveur de notre bon vouloir. Voilà, on y est, hein. Qu'il ne naît qu'à la faveur de notre bon vouloir. Oui, l'imagination imagine, travaille, produit, invente, assemble, organise des histoires, des personnages, des lieux, des espaces, etc. Mais c'est notre bon vouloir, c'est le bon vouloir de Goethe que de faire subir des affres terribles à, comment, à son Faust, etc. C'est son bon vouloir. On n'est pas là dans, on est dans une démarche de création, on est dans une démarche de construction. On n'est pas, on n'a pas affaire à ce que Husserl appelle la constitution intentionnelle. La constitution, chez Husserl, elle relève d'une opération souterraine, inaperçue la plupart du temps de la vie intentionnelle et que seule la réduction transcendantale peut dévoiler. Hein, on n'en parle pas de la même chose. Au contraire, chez Ingarden, les œuvres d'art, les objets culturels en général, sont le fruit d'actes créateurs, plus ou moins complexes, hein, mais d'actes créateurs conscients, conscients et volontaires. Donc en fait, on ne parle pas au même niveau du tout. Et pour cette raison, d'ailleurs, Ingarden a besoin de distinguer deux types d'objets et deux types d'activités constituantes. Et lorsque l'on découvre dans les textes d'Ingarden cette nuance, on se demande dans un premier temps pourquoi distinguer ainsi deux types d'objets, d'autant qu'il les présente avec un raffinement terminologique qui est conforme à Ingarden, mais en disant qu'il y a les objets qui sont purement intentionnels, bon, et ceux qui sont seulement intentionnels. Alors on peut trouver ça d'une subtilité tout à fait excessive, sauf que en fait c'est pas une subtilité. Hein. Cela renvoie à une différence fondamentale hein, entre deux types d'objets. Et les objets purement intentionnels, ceux que Ingarden travaille, analyse dans tous les textes d'esthétique, sont des objets qui sont créés par la fantaisie, par l'imagination, la créativité. Et là, en effet, il est question de construction, d'une construction consciente et volontaire la plupart du temps, même s'il y a une part d'involontaire et d'inconscient, mais part sur laquelle Ingarden ne se risque pas, parce que justement, il faudrait descendre hein, dans les pieds de la constitution. Et puis par ailleurs, il y a les objets qui sont seulement intentionnels, et ceux-là, cette fois, correspondent au noème husserlien et désignent bien le sens du perçu. Hein, c'est-à-dire le sens à travers lequel une chose est visée. C'est ça le sens privilégié de la constitution aussi pour Ingarden, constitue les sens d'objets ou les phénomènes, dans ce cas-là, il utilisera plutôt ce terme de phénomène, comme chez Husserl, à travers quoi les choses nous apparaissent. Mais, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, en distinguant la chose qui apparaît et le phénomène à travers lequel elle apparaît, eh bien, Ingarden dédouble. Les objets, c'est-à-dire que l'objet intentionnel ou le phénomène est ce à travers quoi la chose se présente, tandis que la chose, elle, réelle, reste à l'extérieur des parenthèses, dans sa réalité autonome. Et sur ce point-là, le désaccord est ferme entre Husserl et Ingarden. Alors, donc il est important d'insister sur cette situation. Pour que le statut d'objet intentionnel soit bien clair et bien différencié hein, de celui de Husserl, sans quoi on aurait un véritable contresens ici. Pour autant, la question n'est pas de savoir qui a raison, qui a tort et quel est le sens le plus orthodoxe. Considérons qu'il y a le sens husserlien du noème, il est dans le cadre et dans le projet husserlien, et il y a l'objet purement intentionnel chez Ingarden qui, au fond, ouvre la classe de l'ensemble des œuvres d'art et au fond de l'ensemble du monde culturel. Alors je voudrais m'arrêter un tout petit peu sur ces, pour finir sur ces objets et leur situation jusque dans notre vie quotidienne, notre vie culturelle. Dans le chapitre 9 qui est consacré à l'objet intentionnel, dans la controverse sur la distance du monde, Ingarden propose des exemples tout à fait remarquables de l'activité de construction intentionnelle qui produit, fabrique des objets intentionnels. Et il commence au niveau le plus, on pourrait dire le plus mince, le plus subjectif et le plus individuel. Il commence par les représentations imaginaires, le rêve, les représentations oniriques qui permettent, dans l'intimité de la somnolence, de produire comme ça des images fluentes, flottantes, etc. Donc activité purement individuelle et éphémère. Hein. Il se réfère ensuite à ce petit jeu que tout le monde connaît et qui consiste à projeter des figures dans la forme des nuages. Hein. On dit bien, on dit, ah tiens, on voit un dragon, non, on voit une grenouille, etc., etc. Ce qui est étonnant dans cette projection, dans ce jeu de projection, c'est que ces formations fictives et irréelles qui apparaissent et que l'on fait varier par l'imagination, elles peuvent être aussi perçues par le voisin. On peut co-percevoir ces images-là qu'on est en train de former de manière là aussi flottante dans le ciel à travers du support des nuages. On peut les percevoir à deux, à trois, hein, et les faire varier. Est-ce que tu perçois toi aussi là, on dirait ceci, cela, bien. À ce moment-là, ce jeu de construction, vous le voyez, peut déjà prendre un tour partagé. Et à partir de là, Ingarden se tourne vers des productions intentionnelles beaucoup plus durables, en ce qu'elles disposent d'un fondement existentiel matériel. Et ça va désigner toute la variété des œuvres d'art, hein, qui sont ni plus ni moins que des créations de la fantaisie. Toutes les œuvres d'art, en tant qu'elles trouvent à s'incarner, à se déposer, hein, le tableau dans la toile, la sculpture dans le marbre, etc. Et l'œuvre littéraire dans le texte, le papier ou le parchemin. Entre les deux, Ingarden rappelle aussi tout ce qui participe du plan, de la maquette, du schéma, du prototype. Parce que là encore, il y a des démarches multiples de création, d'invention, d'imagination, et puis un premier effort pour viser une inscription, une incarnation dans la réalité. De sorte que la catégorie du prototype, hein, est en quelque sorte intermédiaire par rapport à entre l'imagination interne et l'œuvre d'art, hein, partagée. On le voit au fond, les différents degrés, hein, dans ces jeux de construction, les différents degrés tiennent à la capacité de ces représentations à s'incarner. Hein. C'est la capacité à s'incarner et la capacité à être partagée en étant insérée dans une matière qui permet à ces objets de la représentation de trouver le chemin de la réalité. Parce que s'incarner, ça veut véritablement dire s'insérer dans la matière et donc composer avec les processus naturels et physiques. Transformer les matériaux jusqu'à devenir le lieu d'expression d'un sens ou d'une valeur. Ainsi, pour Ingarden, une sculpture, une moissonneuse-batteuse, une université, hein, ce sont en ce sens des produits intentionnels, intersubjectifs. Hein. Des produits intentionnels, des objets intentionnels qui ont trouvé le chemin de la réalité, qui ont trouvé à se déposer, à prendre corps, à s'installer dans ce qu'il appelle un fondement réel. Hein. Ce sont des objets cum fundamento in re, et qui, par là même, peuvent s'installer de manière durable aussi dans nos vies et accéder à une existence historique, disposer donc d'une histoire. Alors, je ne sais pas à quelle heure on a commencé, je ne vais pas déborder trop, peut-être 5-10 minutes. Alors, ou peut-être qu'on reviendra ensuite sur les objets artistiques. Je laisse de côté l'œuvre d'art avec son substrat physique, mais enfin, vous devinez tout de suite l'idée ici. Dans ce contexte, puisque l'œuvre d'art est la réalisation in re d'une représentation, hein, d'un objet intentionnel, l'artiste s'est représenté, et pour lequel il a réussi à façonner un support qui va permettre de donner forme et de donner vie à son idée, hein, eh bien, Ingarden insiste sur le fait que l'œuvre d'art ainsi pensée, visée et incarnée est quand même à distinguer du substrat physique qui la porte. Parce que l'œuvre en elle-même, pensée à fausse, eh bien, est autre chose que le livre, le fascicule de papier, de carton, broché, pas broché, etc., que vous avez en main. L'œuvre est autre chose que son substrat. La Vénus de Milo est autre chose que le bloc de marbre. Preuve en est que lorsqu'on voit la Vénus de Milo, dit Ingarden, on voit ses bras. Hein, de sorte qu'elle est bien autre chose que ce qu'il en reste. La toile du tableau, eh bien, ça n'est pas le tableau. Hein. La toile du tableau, c'est une chose réelle. Le tableau, ce qu'il représente, c'est un objet intentionnel. Hein. C'est un point important. Et parallèlement, eh bien, l'accès à l'œuvre se fait par ce qu'Ingarden appelle la concrétisation. La concrétisation du spectateur, c'est pourquoi le spectateur a une place très très importante, et c'est la première fois dans l'esthétique d'Ingarden. Le spectateur est celui qui concrétise, c'est-à-dire qui réactualise les actes intentionnels du créateur. Il réactualise ses actes et ainsi retrouve, hein, se remet en contact avec l'objet visé par le poète, par exemple, et à son tour, hein, en fait un objet intentionnel pour lui, hein, sur la base des dispositifs, sur la base des matériaux, sur la base des textes, sur la base des phrases, des qualités que l'artiste a su mettre en forme. Alors évidemment, le processus de concrétisation offre immédiatement le risque d'être infidèle, hein, et d'être en écart par rapport à l'intention première de l'artiste. Donc les œuvres d'art, mais par extension tous les objets culturels de notre vie, sont des objets intentionnels qui ont trouvé... Hein, qui ont trouvé des chemins, qui ont trouvé des passerelles, qui ont trouvé à se loger dans le monde réel, et qui ont permis de transformer ce monde naturel, pour en faire un monde social, un monde culturel dans lequel nous vivons. Par là, Ingarden retrouve la thématique du monde de la vie, telle qu'elle est déjà présente chez Husserl, et telle qu'elle sera reprise aussi chez Merleau-Ponty. La construction, la production, la création des objets intentionnels, donc encore une fois tous ces objets de représentation, conduit, dit Ingarden, conduit les hommes à aménager, à transformer la nature par l'agriculture, la technologie, les œuvres d'art, par en faire et pour en faire un monde humain, un monde dans lequel l'homme se retrouve. Il crée pour lui, dit-il, un nouveau monde, une nouvelle réalité, dans laquelle il peut se doter de l'aspect de l'humanité. À partir de là, Ingarden va insister véritablement à la manière de Hegel. Hein, il retrouve la thèse hegélienne selon laquelle toutes ces productions non seulement transforment le monde, mais transforment l'homme lui-même, hein, ont une véritable action sur lui. L'homme devient humain en transformant la nature, il devient également humain en créant le monde humain dans lequel seul il peut vivre. Hein. Ses produits nous produisent en retour, dit-il. Ainsi, nous changeons nous-mêmes sous l'influence de notre commerce avec cette quasi-réalité. Et autant, bon, la thèse, on la connaît bien chez Hegel, hein, ce qui est original ici, c'est que cela va poser un problème à Ingarden, à savoir que ces objets intentionnels, ces quasi-réalités, ces objets qui ne sont pas des objets réels, mais qui sont presque des néants, ce qu'il appelle des quasi-objets, ont néanmoins ce pouvoir remarquable de former, de transformer, de nous influencer. Ils agissent sur nous, hein, ils agissent d'une manière forte, ils modifient en profondeur notre vie spirituelle, également notre vie corporelle. Alors qu'est-ce que c'est que ces objets, hein, qui ont ce pouvoir en n'étant ni réel ni réel? Qu'est-ce que c'est que ces objets qui ont le pouvoir d'agir à ce point sur nous-mêmes? Ils sont hétéronomes, ils n'existent qu'autant qu'on le veut bien, et pourtant, ils installent, ils instaurent un monde culturel, un monde historique, une intersubjectivité. Donc ce sont des êtres de représentation, et en même temps, ce sont des réalités qui constituent le monde pour nous, le monde de la vie pour nous. Donc ces êtres de représentation, ces êtres de discours ou ces êtres d'imagination ne sont pas inactifs, hein. Ce ne sont pas des néants, mais bien des passerelles, des médiateurs pour aménager le monde et le partager. Et il me semble que c'est cela la thèse majeure d'Ingarden qu'il est peut-être utile de conserver, c'est-à-dire qu'en dépit du caractère non orthodoxe de sa notion d'objet intentionnel, il est quand même intéressant pour désigner tout objet qui est constitué de part en part par les actes intentionnels d'un sujet, mais encore d'une communauté, on le voit. Et donc on peut garder, il me semble, avec profit cette notion d'objet intentionnel pour désigner toutes les sortes d'objets de pensée. Qu'il reste à l'état de représentation mentale, d'idées, de rêves, de projets, de représentations théoriques, ou qu'ils parviennent à se déposer dans un support matériel qui leur donne une réalité, peu importe, ils sont ce à partir de quoi notre monde se constitue, hein, et se constitue inlassablement. C'est pourquoi, et se constitue inlassablement, on pourrait insister sur la dimension, encore une fois, de l'intersubjectivité qu'Ingarden permet de penser, parce qu'il permet de penser que nous sommes aussi toujours co-créateurs, hein. Nous sommes toujours partie prenante, hein, de ces objets qui ont été créés par d'autres, mais que nous poursuivons, hein, que nous réactivons continuellement, que nous faisons vivre de nouveau et qui nous font vivre en retour de nouveau. Alors, ce n'est pas le véritable sens husserlien, mais il est, il me semble, suffisamment opérant pour être conservé. On pourrait le rapprocher, juste une suggestion, de la notion d'intentionnalité collective que l'on a chez John Searle, où, à nouveau, ce sont des actes de langage qui sont envisagés comme ce qui permet de constituer notre monde. Il me semble que c'est par là qu'on pourrait faire un rapprochement assez utile et qui permettrait, indépendamment de l'approche proprement phénoménologique, hein, de penser la constitution du monde de la vie, hein, en termes de représentation et en même temps de représentation collective, hein, en faisant l'impasse, après ce sont des choix, en faisant l'impasse sur le sujet transcendantal ici, évidemment. Mais en tout cas, disons qu'entre le réalisme naturaliste de Searle et celui d'Ingarden, je pense qu'il y a des passerelles possibles. Voilà. Je vous remercie, désolé pour le débordement.